Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h et on rit beaucoup quand même aujourd'hui dans l'émission. Avec Charles Magnien, avec également le journaliste et écrivain Fred Hermel, avec l'influenceuse et entrepreneuse Élise Goldfarb et avec la légende de la télévision.
J'ai un rêve, Estelle.
Jacques Legros, qu'est-ce qu'il y a?
Un aligo saucisse.
Ah oui, comme Gabriel Attal. Présentez-vous à la présidentielle, Jacques. Écoutez, manifestement, c'est la mode. Donc, écoutez, vous pouvez toujours y aller. Dans un instant, on parlera de la Pentecôte. Est-ce qu'il faut remettre tout le monde au travail et puis enlever le côté férié de la Pentecôte? On en parle avec vous au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
06 12 424 424. Bah tiens, racontez-nous, est-ce que vous allez bosser lundi prochain ou pas? Quelle est votre situation? Vous nous le racontez sur WhatsApp et on lit tous vos messages en direct.
Le tu préfères 14h25, voilà, c'est un tu préfères. Cuisine estivale, salade niçoise ou salade César? Bon bah, vu qu'il y a la finale de la Coupe de France, à mon avis Fred Hermel ne va pas dire salade niçoise, mais nous verrons ça à 14h25. 14h30, ce sera RMC Santé avec notre médecin urgentiste Aurel Guedj. On parlera des pellicules, comment faire pour en venir à bout. Et puis, on terminera avec les immanquables, Charles.
On n'arrête pas de parler de la crise du prêt-à-porter de tous les magasins qui ferment. Et ben, il y en a qui ouvrent.
Ah.
C'est Lefties, une enseigne espagnole. C'est le même groupe que Zara, mais à prix cassé. Mais oui, des t-shirts à 3 euros. Ils viennent d'ouvrir un magasin géant dans l'Essonne. C'est le même concurrence de Chine, évidemment. Mais cette fois, ce sont des grands magasins qui ouvrent. Et puis, il y en a qui veulent avoir de grandes vacances cet été, ce sont les sénateurs.
Et
les sénateurs refusent de travailler au-delà du 14 juillet, alors que le calendrier
législatif est très chargé.
Et bien, ils reprendront pas avant octobre. Parce qu'il y a des élections sénatoriales en septembre. Ils disent qu'il faut le temps de faire campagne, donc on arrête le 14 juillet, s'il vous plaît.
Mais quand je serai grand, je serai sénateur.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Jacques.
Ben vous avez l'âge pour ça, Jacques.
Oui, il est un jeune sénateur bientôt, Jacques.
Il est un peu trop jeune encore.
Oui, dans quelques années. On en reparle à 14h40.
C'est Estelle Midi.
14h06 sur RMC, on s'intéresse tout de suite au pont du jour et c'est celui de la Pentecôte. Alors que le lundi de Pentecôte n'est plus vraiment férié, de nombreux Français vont tout de même en profiter pour partir en week-end prolongé avec leurs enfants. Car oui, Charles, les écoles seront fermées lundi alors que ce n'est pas férié. Bref, on n'y comprend rien.
Oui, et on va tenter de vous expliquer que depuis 2004, il existe en fait une journée de solidarité pour financer la dépendance. Alors voilà ce que dit la loi. Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non payée, non rémunérée pour les salariés et de la contribution des employeurs pour financer l'autonomie des personnes âgées. Et toujours selon la loi, en l'absence de convention ou d'accord dans une entreprise, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Autrement dit, ce lundi de Pentecôte, si vous travaillez, vous le faites gratuitement et votre employeur ne vous paye pas de salaire, mais verse des cotisations qui financent la dépendance. En fait, chaque entreprise fait ce qu'elle veut. Certaines choisissent de supprimer un jour de congé ou de RTT à leurs salariés. D'autres offrent ce jour à leurs salariés, mais toutes doivent à la fin verser 0,3% de leur masse salariale à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et pour la fonction publique, chaque administration s'organise comme elle l'entend pour faire travailler ses agents un jour de plus, en tout cas 7 heures de plus dans l'année. Dans les écoles, par exemple, les enseignants devront compenser ce lundi de Pentecôte qui sera chômé. Ils vont compenser avec des heures, par exemple, de réunions, de kermesse, d'opérations écoles ouvertes qui auront lieu un samedi, un mercredi ou en soirée.
C'est ça,
Ah non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai.
On fait bosser les profs dans l'école un samedi matin pour une kermesse. Et on considère que ça compense le lundi de Pentecôte.
Voilà, ça les amuse pas de vendre des parts de gâteaux, je pense, le samedi matin. Ils ont peut-être aussi autre chose à faire.
Le chamboule tout.
Faut-il remettre tout le monde au travail et enlever le côté férié de la Pentecôte, Jacques Legros?
Vous
travaillez lundi?
Rien, oui.
Ok.
Oui. Mais moi, j'ai eu la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de jour férié. Mais on avait beaucoup de vacances.
Oui.
Mais ni Noël, ni 1er mai, ni jour de l'an.
Parce que vous étiez joker en fait du trésor de téléphone.
Oui, mais.
A fortiori, vous travaillez le moment où les autres partaient en vacances.
Notamment
quoi.
Cela, et pas que. Donc, mais ça fait partie du métier. Je veux dire, on travaille les jours fériés et on n'y pense même pas. En revanche, on a beaucoup de vacances.
Ouais.
On avait beaucoup de vacances.
Mais est-ce qu'il faut dire à un moment, est-ce qu'il faut tout simplement ouvrir les écoles, voilà, parce que dès lors que les enfants n'ont pas école, évidemment il y a des gens qui sont obligés de garder les enfants et qui donc font le pont. Donc à un moment, est-ce qu'il faut ouvrir les écoles et faire en sorte que ce jour, il est pas férié, puis basta, quoi.
Moi, j'aime pas le tous pareil au même moment. C'est, je trouve qu'on manque de liberté d'organisation dans ce pays. Et que c'est comme le débat du 1er mai, quoi. Est-ce qu'on peut avoir envie de travailler le 1er mai? Moi, je suis tout à fait ouvert à ce que celui qui a envie de travailler travaille. En plus, on est payé double. Mais, j'aime pas ces règles qui s'appliquent à tout le monde. On évoquait les retraites au début.
Mais les écoles, faut que ça s'applique à tout le monde, Jacques. Voilà, oui. Les écoles, elles étaient fermées vendredi pour le pont de l'Ascension. C'est-à-dire que voilà, on légalise le pont de l'Ascension et maintenant elles sont fermées pour la Pentecôte, alors que c'est pas férié. Donc c'est, il y a quand même un truc qui va pas, quoi.
Et ça dépend des départements, des rectorats, des académies, pardon.
Élise Goldfarb, est-ce qu'il faut enlever le caractère férié de la Pentecôte pour tout le monde?
Non, moi je pense pas. En revanche, quand je suis arrivée dans le monde du travail et que j'ai compris que le lundi de Pentecôte c'était la journée de la solidarité, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est-à-dire qu'on m'a dit, tu vas travailler ce jour-là, mais c'est pas pour toi, c'est pour d'autres gens. Et je me suis dit, c'est fou, parce que c'est quelque chose qui nous manque dans la société. Mmh. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis petite...
Vous cotisez pour la retraite aussi.
Il y a 6 mois de l'année où tu bosses pour d'autres gens. La différence entre le brut et le net.
En fait, ce que j'ai aimé, c'est le mot, le symbole de la journée de solidarité. Moi, j'ai toujours été dans le milieu associatif et je me suis toujours dit, c'est ce qui nous manque aux Français, c'est qu'on nous montre ce que c'est de travailler bénévolement. C'est ce qu'on nous montre ce que c'est qu'on nous. Oui, bon, je sais qu'aujourd'hui on est beaucoup taxés, donc on a l'impression de bosser bénévolement. Je vois où tu veux en venir, Estelle. Mais j'ai ce que rien à dire. C'est que qu'on ait ce côté de l'engagement, de faire pour l'autre. C'est évidemment notre modèle social déjà. Mais se dire qu'on a une journée de solidarité, je trouve ça magnifique. Maintenant que des entreprises décident de le rendre férié ou que les écoles soient fériées, bon, c'est dans notre culture depuis toujours, donc je...
Mais alors, ça se change.
Oui, mais je sens pas d'urgence à changer ça, moi.
Et en fait, l'urgence, c'est quand même que là, il y a le FMI qui nous a mis un petit coup de pression hier, en expliquant qu'en fait, on travaillait pas assez, que,
On peut taper ailleurs.
Mais on peut taper ailleurs.
Augmenter l'âge de la retraite.
Mais là, en fait, il y a des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas. Il y a un moment où faire en sorte que ce soit une harmonisation. En plus, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la Pentecôte. Faire en sorte de rouvrir les écoles. Vu notre classement PISA, ce serait peut-être pas un mal, je veux dire que nos enfants travaillent une journée de plus et faire en sorte justement que les parents puissent se remettre au travail parce qu'ils ont pas à garder les enfants ce jour-là. Tout part de là en fait. Si les écoles elles étaient ouvertes, mais on n'aurait pas ce débat et tout le monde travaillerait le jour de la Pentecôte et il y aurait pas Bison Futé qui voit rouge lundi, Fred Hermen.
Vous avez raison, ma chère Estelle. On parle tout le temps des problèmes de garde dans cette émission, que c'est un frein à l'embauche des femmes, à l'emploi des femmes, etc. Enfin, la garde, c'est un vrai problème. Pour les gens qui veulent se plaindre, par exemple, les écoles, si des profs se plaignent, par exemple, il y a la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, c'était l'Ascension. Les écoles étaient fermées.
Hein. Exactement. Et c'était fermé même le vendredi. Alors, c'est pas le vendredi de l'Ascension.
Donc ils faisaient le pont. Franchement, à partir du moment où, et je vois dans cette entreprise qui s'appelle RMC, on nous précise que si on veut pas travailler, on prend un jour de RTT.
Oui.
Ou un jour de congé. Voilà. Mm-hmm. Mais parce que.
Mais ça t'enlèvera du coup un jour de RTT. Par solidarité.
Par solidarité, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis pas pour l'égalitarisme à tout va. Mais à partir du moment où ça pose un problème de garde, le service public, il est là pour régler ce genre de choses. Donc, je regrette un peu parce que c'est une fête religieuse très importante à Pentecôte dans le calendrier.
C'est le dimanche qui est religieux.
Oui, le dimanche.
C'est pas lundi.
Le truc, voilà.
On peut aussi mettre le 26 décembre parce qu'il faut se remettre de Noël. Enfin, je veux dire, il y a un moment.
Mais à partir du moment où ça se fait, il faut quand même faciliter. À partir du moment où les employés du privé, ils vont être embêtés par ça, qu'on leur facilite un petit peu la vie en disant,
c'est souvent une journée détente dans le monde du travail.
Ça fait 4 jours.
Peut-être chez toi, mais pas chez moi.
Nous, on va bosser comme d'habitude. Quand j'étais salarié, la journée de la solidarité, on disait tu viens travailler parce que c'est le concept, Mais tout le monde pouvait venir avec son chien au bureau, travailler en tranquille.
Je peux venir avec mon chien lundi.
Oui, puis moi, je peux venir avec mes gars aussi.
Si je peux ramener mon chien, je le ramène. On va kiffer.
Ramène ton chien. Enfin, non, d'ailleurs, c'est interdit. Mais en vrai, lundi, nous, c'était mieux. On fait 3 heures et puis on fait pas des jeux de société, tu vois.
Mais on pourrait.
On fait pas un goûter non plus. On travaille classiquement. Ça donne quoi sur le WhatsApp, Charles?
Vous êtes nombreux à réagir à cette question. Et du lundi de Pentecôte, tiens, Anne qui nous précise, oui, pour nous, les profs, cette journée de solidarité, en fait, ça devient, on ne bosse pas lundi, mais ce sera un samedi, dans les semaines qui viennent. Généralement, c'est la journée porte ouverte, ou bien les réunions non obligatoires et non payées le soir. Bref, on la compense par ailleurs. J'ai aussi Grégory qui nous dit, moi, ça fait 30 ans que je bosse, j'ai jamais bossé le lundi de Pentecôte. Ça va pas commencer maintenant juste pour rattraper les erreurs des gouvernements successifs. On paye assez d'impôts par ailleurs pour pas avoir besoin de bosser gratuitement en plus.
Il y a un truc qui me chiffonne. Quand on voit la carte qu'on a montrée plusieurs fois déjà, toute rouge la France. tout en rouge.
Oui, bison futé.
Ça veut dire que tout le monde est sur la route.
Exactement.
Et l'essence, on n'arrête pas de dire qu'elle est que le prix est insupportable à longueur de JT.
Parce que les Français, en fait, ils ont fait les arbitrages sur la route. Alors hier, on a fait ce sujet dans SMD et j'ai reçu le témoignage d'une dame qui était très touchante et qui me dit voilà, vous avez un peu stigmatisé ceux qui partaient, mais moi j'ai besoin de ça. Je travaille, j'ai eu des coups durs ces derniers temps dans ma vie personnelle et en fait c'est ma petite bulle d'oxygène. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui avec le climat, etc., on a besoin de partir. Mais en fait, partir, ça veut pas dire aller sur la Riviera, ça veut pas dire prendre un hôtel à je sais pas combien, ça veut dire aller voir la famille, ça veut dire peut-être aller un petit peu à la campagne, s'aérer avec les enfants. Et ça, je pense que les Français en ont aussi besoin. Est-ce que ils en ont besoin, voilà, le lundi de Pentecôte et d'avoir 4 jours fériés au mois de mai, ça c'est un autre problème. Mais les Français y partent. Mais peut-être que cette dame, elle se faisait un restaurant peut-être une fois par mois avec son mari. Peut-être que là, elle le fera pas. Et pour pouvoir partir. Aujourd'hui, le livret A n'a jamais été autant ponctionné par les gens. Ça veut dire que en fait, on puise dans l'épargne pour pouvoir aussi s'offrir ces petites bulles d'oxygène.
Il y a un problème avec la Pentecôte, en effet, c'est que ça vient couronner le mois de mai, en fait. Il y a eu le 1er mai. Il y a plein d'autres jours fériés qui ont des justifications religieuses, historiques, etc. Là, le lundi de Pentecôte, si vous le supprimez, personne ne va revendiquer, je parle sous le contrôle de
l'État, mais c'est vrai,
même
c'est
d'un
vrai.
Point de vue religieux, personne, non, mais contrairement au 15 août, à Noël, qui ont un vrai sens religieux, lundi de Pâques, etc. Là, la Pentecôte, personne ne râlerait.
Exactement.
Donc je vois pourquoi le gouvernement n'a pas le courage de dire, voilà, celui-là, on passe à un jour normal, d'autant que c'est pas comme si on était privé de jour férié au mois de mai.
Ouais. Nous sommes avec Éric Gras, c'est notre invité sur ce débat, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France. Bonjour Éric.
Bonjour Estelle et bonjour à mon cousin Jacques.
Ah oui, Jacques Legros, Éric Gras, évidemment. Bien sûr. Oui, on adore. La famille, c'est le sang.
Ils sont saignants tous les deux.
Éric Gras, est-ce que pour faciliter la vie de tout le monde, faudrait remettre tous les Français au travail à la Pentecôte ou est-ce que c'est bien que ça reste un petit peu férié?
Ah, déjà, faut arrêter avec cette formule remettre les Français au travail. On travaille plus que les Allemands.
Oui, mais un peu moins longtemps quand même.
Et oui, non, mais en fait, on a un problème quand vous parliez de l'OCDE, du FMI qui disait qu'on travaillait pas assez en France, c'est qu'on a un problème de taux d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens en emploi.
Exactement.
Mais le temps de travail hebdomadaire, etc., même si on a un paquet de jours fériés, on regarde dans beaucoup de pays nordiques, il y en a qui ont plus de jours fériés que nous. Donc oui, on peut poser le problème de la Pentecôte parce que il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, parfois c'est payé par l'entreprise, parfois ça l'est pas, donc là ça crée des tensions, une forme d'inéquité. En France on n'aime pas tout ce qui est inéquitable, mais il faut pas remettre en cause le temps de travail des Français qui est pas si mauvais que ça.
Mais si on enlevait la Pentecôte, Éric Gras, il y aurait pas de manifestation dans les entreprises?
Visiblement non, et puis il y a déjà 64% des Français qui disent avoir aménagé entre guillemets ce jour et d'autres par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc il y a des jours auxquels on ne touche pas, qui sont sacrés, vous l'avez dit, le jour de Noël, etc., sauf pour certaines professions. Ça fait partie des jours où déjà mécaniquement il y a des entreprises qui demandent à ce que les gens travaillent par nécessité économique, et en fait les salariés s'adaptent dans une très large majorité des cas.
Est-ce que c'est le pire mois, finalement, le mois de mai pour les entreprises, Éric Gras? Parce que là, par exemple, cette année, il y a 4 jours fériés qui sont tombés en semaine au mois de mai. J'imagine que pour l'organisation des entreprises, c'est un véritable casse-tête.
Ouais, mais c'est compliqué pour les salariés aussi, parce qu'en fait, je prends souvent cet exemple que moi j'ai connu quand j'étais manager, des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui, quand elles deviennent maman, passent en 4/5. Et donc, vous avez un 4/5 de salaire, mais globalement, vous avez souvent la même charge de travail qu'avant. Sur le mois de mai, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des fois des semaines réduites, la charge de travail, elle est toujours là, et vous devez faire en 3 jours ce que vous étiez censé faire en 5. Et posez la question et regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont quand même fatigués du mois de mai, parce qu'au final, c'est très irrégulier, et du coup, la charge de travail, elle est beaucoup plus dense sur des temps beaucoup plus courts. Donc, ça convient pas forcément à tout le monde, et c'est pas forcément hyper bénéfique non plus pour les salariés.
Merci beaucoup, Éric Gras, en tout cas, d'avoir été avec nous, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France. Des messages, Charles, sur le WhatsApp.
Oui, Raph qui nous dit lundi, on va rentrer dans le week-end entre copains, on va se faire 3 jours avec les potes, parce que moi, j'ai la chance d'être chauffeur routier et les jours fériés, on n'est pas censé rouler. Et du coup, on est sûr de ne pas bosser. Stéphane nous dit mais Pentecôte devrait rester un jour férié, comme les autres jours fériés. On n'a pas à compenser l'incompétence de l'État qui ne sait pas gérer ses finances. Il faut le rappeler, si on nous a demandé de travailler plus, c'est parce qu'il y avait un trou dans la caisse. Ce n'est pas à nous de boucher le trou en allant bosser gratuitement, parce qu'il faut le rappeler, ceux qui bossent lundi, bosseront gratuitement.
Oui, mais enfin, on bosse gratuitement, mais on bosse, je veux dire, pour quelque chose qui nous concerne tous, c'est-à-dire le grand âge, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore, mais on va y être. Nos parents, ils sont peut-être, et à un moment, il faut bien que, si on veut avoir des EHPAD dignes de ce nom et effectivement une prise en charge des seniors dignes de ce nom, va quand même bien falloir qu'on trouve des solutions. Alors, on cotise déjà beaucoup pour les retraites, quand même. Ben oui, mais manifestement, c'est pas assez. Vous voyez, même avec cette journée, c'est pas assez.
Ben non.
Ça va rapporter combien cette journée de solidarité? C'est 3,5 milliards,
hein. Ouais, je crois, chaque année.
Voilà, donc c'est quand même une.
Pourquoi on ne ferait pas une journée de solidarité pour les enfants aussi dans les écoles, où on les familiarise aux associations? On leur fait rencontrer une asso,
d'accord, ok, mais ça n'a rien à voir. Merci de.
Bah, c'est une idée, c'est une propale. Je fais une propale.
Voilà. Ouais. C'est ça, on a qu'à supprimer tous les jours fériés puis les donner aux assos. C'est ça.
On y gagnerait.
Chacun son jour.
Ça fait réagir Thierry sur le WhatsApp de l'émission qui nous dit eh ben, pour une fois qu'Estelle travaille un jour férié, résultat, je vais mettre toute la France au boulot ce jour-là.
Mais pas du tout. Mais je sais pas où il était le 1er mai, mais moi j'étais en plateau.
Je peux en témoigner.
Exactement.
On était payés double ce jour-là.
Payons double les Français les jours fériés, quelle bonne idée.
Oui, bon, on en fera un débat lundi, pourquoi pas.
Car nous serons là en plein lundi gratuitement.
Nous serons là et on vous a posé la question sur nos réseaux sociaux ce lundi de Pentecôte. Alors, est-ce qu'il faudrait remettre tout le monde au travail, arrêter avec la notion de jour férié pour le lundi de Pentecôte? Vous avez répondu non à 68%.
Il est 14h20 dans Estelle Midi et c'est l'heure du tu préfères.
RMC Estelle Midi, tu préfères.
Et c'est un tu préfères culinaire, un tu préfères estival, puisque nous allons parler salade. Tu préfères la salade niçoise ou la salade César, Fred Hermel?
Oh, la César, j'aime beaucoup.
Ah.
C'est ma deuxième salade préférée.
Il y a un top 10, un top 15.
Non, mais pour moi, la top des salades, c'est la salade grecque. Là, c'est le meilleur. Et en deuxième, la salade César.
Et la troisième, c'est.
L'Auvergnate.
Qu'est-ce que c'est?
C'est avec du jambon cru, du fromage. Ah oui.
D'accord. Mais vous aimez la vraie César avec
La vraie. Alors l'image que l'on voit ici avec le poulet pané, ça c'est pas bien ça.
Oui.
Là le poulet pané.
Alors comment vous faites votre César?
Il faut du parmesan, il faut de la salade romaine, c'est ça, chercher le truc. Mais le poulet, il faut soit sans pas grillé, en fait, le poulet grillé mais pas frit en fait.
Pas pané.
Il faut de l'anchois, sinon c'est pas une vraie salade César.
Mais le clou de la salade César, c'est l'élément le plus important. C'est la sauce.
Mais évidemment.
C'est la sauce et c'est très bon.
Il y a plein de gens qui enlèvent les anchois.
Le problème, c'est que il est très rare de trouver une bonne salade César, parce que sinon il y a beaucoup de salade, il y a pas beaucoup de poulet et la sauce elle est pas bonne.
Voilà, bon, bah donc ça a
été. Ils font payer 20 balles, hein.
Oui, bah aussi, donc, évidemment. Jacques Legros est mort de rien.
N'est pas César qui veut.
Oui, évidemment. Alors, Jacques Legros.
Moi, c'est la niçoise.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
mais alors, on met quoi dans la niçoise? Parce qu'il y a plusieurs écoles.
Je sais pas, moi, je la mange, je la fais pas. Donc.
Il a des gens chez lui pour faire la salade niçoise. Mais vous mettez quoi dedans? Des haricots verts, de la tomate?
Tant qu'il y a de l'huile d'olive, des anchois.
Oui.
Désolé, j'adore ça. Des œufs, des tomates, beaucoup de tomates, un peu de thon, enfin, j'aime. Voilà. D'accord. J'aime les salades en général.
Il n'y a pas de riz dedans.
Ah non.
La salade niçoise.
Bah, certains la fouettent avec du riz.
Bah, c'est pour ça, c'est l'éternel débat.
En dehors. Et d'ailleurs, on a un niçois sur le plateau. Voilà. C'est quoi, Charles?
C'est très marrant, mais à Nice, il n'y a jamais de riz dans la salade niçoise. Mmh. Mais dès qu'on sort de Nice, dans toute la France, il y a des salades niçoises avec du riz. Donc,
et des haricots,
c'est ça. Voilà, cette légende.
Il y a des haricots verts, quand même, dans la salade niçoise.
Oui.
Haricots verts, thon, tomate, olive noire et œuf.
Je vous confirme ça dans un instant.
Eh ben, écoutez, très bien. Et oignons, non, quand même. Il faut les petits oignons.
Ah oui.
Élise Goldfarb.
Je déteste les deux.
Malheureusement,
c'est mes salades détestées. Vous avez réussi à trouver mes salades détestées.
Et comment on peut détester?
J'aime pas. Il y a pas d'ambiance. C'est la salade niçoise, ça sent le prout déjà. Désolée, hein.
Voilà, il fallait qu'elle dérape.
J'aime pas le goût. La salade César, moi, j'aime pas le parmesan, donc ça me saoule.
Mais vous aimez quelle salade?
J'aime la salade grecque. Ouais. La salade de concombre à la mandoline avec du vinaigre, délicieux.
Du vinaigre.
La salade de betterave avec des tomates et des oignons rouges, délicieux.
Vous, hein.
Une bonne tomate mozza, une bonne salade verte, tout court.
Super.
Cœur de laitue.
La fête est folle, hein, chez vous. Hein.
Bah, je suis désolée, mais j'avoue que je m'y retrouve pas. Sinon, il y a une salade que j'adore. Je fais salade verte, saumon fumé, pamplemousse, oignons rouges.
Ah, c'est bon.
Ah, pas mal.
Très grand.
On peut se laisser tenter.
Et encore mieux. Salade de fenouil, huile d'olive, citron. Ouais, faites-moi là, confiance. Niche, hein. Non, faites-moi confiance. Non, c'est un délice des dieux.
Important. D'accord. Charles, la recette de la niçoise.
Salade, tomate, poivron vert, ail, oignon rouge ou cébette, févette, céleri, un peu d'artichaut, pourquoi pas, des œufs durs, un filet d'anchois à l'huile d'olive, olive noire niçoise, huile d'olive niçoise, évidemment, et un peu de basilic.
C'est quoi votre site, là ? Enfin, pardon, mais... Vous êtes sûr de cette recette de niçoise ?
Ah bah, salade niçoise, artisanale, etc. Traditionnelle, oui.
Ok, c'est pas du tout la recette qu'on a l'habitude de manger.
Bah oui, mais après chacun, c'est comme le César, il n'y a pas deux Césars qui se ressemblent dans le monde.
Alors, on vous a posé la question, salade César ou salade niçoise ?
Je suis étonné, je pensais la niçoise bien plus populaire. La salade César l'emporte assez largement à 69%.
Ah oui, donc c'est un plébiscite, tout simplement. Dans un instant, RMC Santé, avec notre médecin urgentiste Aurel Gage, on va parler d'un problème très handicapant, c'est le problème des pellicules. Il y a plein de Français qui ont des pellicules et on vous dira si malheureusement vous y êtes sujet, comment faire pour vous en débarrasser. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h27, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est RMC Santé avec notre médecin urgentiste Aurel Gage.
Estelle Midi,
RMC Santé.
Et Aurel, on va parler d'un problème qui touche un Français sur deux.
J'en ai pas. Les pellicules, sors-toi ça de la tête.
Et oui, ce problème, eh bien, ce sont les pellicules. Un Français sur deux, quand même, en souffre. Ces petits dépôts blancs disgracieux qui sont un vrai handicap pour ceux qui en ont beaucoup et qui n'osent plus, du coup, porter de vêtements sombres. Ça vient d'où, les pellicules, Aurel Gage ?
Les pellicules, ça vient d'une chose. Il y a un fauteur de trouble avec un nom imbouffable, Malassezia. C'est un champignon. Il faut bien comprendre que vous avez un champignon. On l'a tous autour de la table, je vous le dis. Non, c'est juste... On vit avec ce champignon. Il faut bien comprendre que ce champignon, il vit à l'endroit où il y a du sébum et donc il adore le cuir chevelu. Il y a plein de sébum. Mais le problème, c'est que lui, eh bien, pour vivre, de temps en temps, il va manger le sébum, il va festoyer sur votre sébum, il va induire une réaction inflammatoire, ça va boucher les pores et ça va induire quoi ? Cette réaction inflammatoire, ça va faire que la peau, elle va se reproduire tellement vite que ça va faire des amas, ça va faire des pellicules. Parce que la peau, c'est un organe vivant. Il faut bien vous rendre compte que lorsque vous regardez, vos avant-bras, vous voyez pas de pellicules. Non. Parce qu'en fait, vous avez pas Malassezia. Là, vous avez Malassezia sur le cuir chevelu. Et donc là, vu que vous avez ce champignon-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va manger le sébum, induire une réaction inflammatoire, ça va faire que la peau va se reproduire trop vite, et là où normalement on n'est pas censé voir quand la peau se dégrade, vous allez avoir des amas de cellules.
Ah, c'est des dégradations de la peau.
Exactement.
Mais alors, qui dit sébum dit cheveux gras, ça veut dire qu'en fait on a des pellicules que quand on a les cheveux gras.
Alors, ça joue, mais il n'y a pas que ça. On va essayer de comprendre. Première chose, on a dit, il me faut le champignon, on l'a tous. Il y en a qui vont pas être pareils au niveau de la quantité. Deuxième chose, vous venez de le dire, le sébum. Donc oui, il y a un sur-risque quand on produit plus de sébum. Donc exemple, si on a les cheveux un peu plus gras, ou alors surtout, même lorsque vous êtes un homme, puisque quand on est un homme, on produit plus de sébum.
Ah, c'est pour ça que les hommes ont plus de pellicules.
Eh bah oui.
D'accord.
Puisque malheureusement, quand on produit des hormones type testostérone, on produit plus de sébum. Ensuite, le problème, c'est qu'on a dit Malassezia, une fois qu'il a festoyé, une fois que le champignon a mangé justement du sébum, il va induire une réaction inflammatoire. Donc ceux qui ont une mauvaise protection au niveau de la peau, eh bien justement, eux, ça va faire que ça va vraiment induire de l'inflammation. Donc si par exemple vous avez une condition dermatologique en dessous, ou alors même à cause de la température, si le climat est sec, parce que ça va détériorer la qualité de la peau. Si la peau est pas assez hydratée, pareil, inflammation. Et malheureusement, eh bien il faut même savoir que vous avez certaines maladies où lorsque vous avez un dérèglement immunitaire, exemple pour les patients qui ont le VIH, eh bien ils ont plus de pellicules. Pourquoi ? Parce que dérèglement immunitaire, le champignon mange les acides gras, il fait une réaction inflammatoire qui n'est pas régulée, ça fait des pellicules.
Alors, on voit plein, notamment dans les rayons des supermarchés, de shampoings anti-pelliculaires. Est-ce que ça marche ?
Alors oui, ça marche, et ça marche même plutôt très bien. Mais je pense que c'est important d'essayer de comprendre le mécanisme. On a dit, c'était quoi le responsable de des pellicules ?
L'aménia.
Le champignon.
En fait, on va essayer de jouer là-dessus. Le Malassezia, mais c'est pas grave. Malassezia. C'est ce champignon-là, on va essayer de jouer là-dessus, tout simplement. Alors, on a dit, on en a tous. Donc l'objectif, c'est pas de le tuer. L'objectif, c'est de le réguler. Donc les premiers médicaments qu'il y a, juste, alors c'est pas des médicaments, mais les shampoings antipelliculaires, l'idée, ça va être de l'empêcher d'induire de la réaction inflammatoire. Mmh. Et la deuxième chose, ça va être de ralentir, généralement, le temps que la peau se reproduise. C'est-à-dire qu'on lui dit, on se calmos, comme ça permet d'éviter qu'il y ait ces amas de cellules. Et puis par contre, si ça marche pas, là on se dit, ok, bon bah faut un peu le tuer, ce champignon. Donc on va donner des antifongiques, là des médicaments. Mais vous vous doutez bien que plus on monte en grade, plus il y a des effets secondaires. Et alors pour les gens pour qui c'est extrêmement gênant, eh bien on peut même donner
bah, des anti-inflammatoires.
Mais les carrément pour les pellicules.
Des pellicules où vous avez des thérapeutiques qui sont réfléchies justement là-dessus pour jouer directement sur l'inflammation. Vous avez des molécules en test où justement l'idée c'est de se dire, bah, je vais jouer sur ce que va sécréter le champignon pour éviter qu'il y ait la réaction inflammatoire, pour éviter que ça bouche les pores, pour éviter que ça fasse plus de sébum et que ce champignon, eh bien, se repaisse et festoie comme un fou.
Mais alors, c'est peut-être idiot, mais moi j'ai une autre solution, c'est de se couper les cheveux courts, non?
Alors, si vous coupez les cheveux courts, non, c'est pas du tout idiot, en fait.
Ah, d'accord.
Non, puisque vous avez raison. En fait, puisque les cheveux courts, pourquoi les cheveux? Non, mais pourquoi au niveau des cheveux, vous faites des pellicules? Parce que les cheveux, c'est parfait pour garder le sébum. On a dit, il faut de la nourriture à ce champignon. Donc, si vous avez les cheveux courts, le sébum, il peut tranquillement partir. Ça va un peu assécher la peau. Donc, vous aurez moins tendance à faire, eh bien, des pellicules. Mais bon, c'est quand même dommage de se raser la tête juste à cause de pellicules.
Oui, non, mais j'ai pas dit raser la tête, mais ça peut être se couper court. En tout cas, on a bien compris. Les shampoings anti-pelliculaires, ça marche plutôt bien. Et sinon, dermato, direct. Merci beaucoup Aurel Gage. Merci d'avoir été avec nous. Et puis vous avez des cheveux absolument parfaits. Je regardais depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a des pellicules? Pas du tout.
Les épaules sont impeccables.
Exactement. Je n'ai pas vu un dépôt blanc sur votre tête.
Bravo.
D'ailleurs, personne ici. Bravo.
Fred Hermel. Les pellicules, c'est réglé depuis longtemps. Ouais,
Fred Hermel, il a trouvé la solution la plus économique, effectivement.
La plus radicale.
Ne pas avoir de cheveux. Comme ça, évidemment, c'est plus simple. Merci beaucoup. Aurel Gage, chronique à retrouver en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Et c'est l'heure de jouer sur RMC.
Mais oui. Vous le savez, on joue à la liste des 26, les 26 cadeaux pour la Coupe du Monde qu'on vous offre sur RMC. Vous allez pouvoir remporter des chèques de 10 000 euros, pourquoi pas, mais aussi des packs Coupe du Monde avec des vidéoprojecteurs, des maillots des Bleus, des ballons officiels de la Coupe du Monde. Pour les remporter, vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste au 732-16.
Dans un instant, les immanquables de Charles, à tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Et on va faire un tour sur le WhatsApp de l'émission. Évidemment, on continue de surveiller vos réactions en direct. Vous avez été très nombreux à réagir à la question du lundi de Pentecôte. Est-ce qu'il faut remettre tout le monde au travail? Est-ce qu'il faut en finir avec le caractère férié de ce lundi de Pentecôte? Laure nous dit, c'est vrai que le mois de mai est quand même un vrai gruyère en France. J'ai compté, mes enfants ont eu 12 jours d'école ce mois-ci. Moi, je suis censé chercher du boulot en ce moment, je suis au chômage et j'aimerais pouvoir avoir un peu plus de temps pour m'y consacrer. Mais en fait, j'ai les enfants à la maison quasiment tout le temps avec ce mois gruyère, nous écrit Laure. J'ai Nicolas qui nous dit, quand j'entends Élise nous dire que le lundi de Pentecôte, c'est tranquille dans son entreprise, qu'on peut emmener son chien et jouer aux jeux de société, elle ne se rend pas compte de la vraie vie. Moi, dans ma boîte, on sera tous là lundi et pas pour prendre le goûter, mais pour faire tourner l'entreprise. Voilà ce que nous écrit Nicolas. J'ai aussi le témoignage de Laurent. Moi, dans ma boîte, bah, c'est simple, on ne bosse pas lundi, c'est vrai, mais on nous a sucré un jour de congé ou de RTT. C'est à nous de choisir. On n'a pas le choix. Si on ne vient pas, on nous enlève un jour. C'est la journée de solidarité, nous raconte Laurence. Vous continuez évidemment de réagir en direct à l'émission sur le WhatsApp au 0612 424 424.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h37, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Charles Magnien, Fred Hermel, Élise Goldfarb et Jacques Legros. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on commence, Charles, avec le candidat du jour.
Gabriel Attal, qui vient d'officialiser, c'était il y a quelques minutes, sa candidature pour la présidentielle 2027.
C'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que, oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
C'était en Aveyron, un petit village médiéval, avant de déguster un aligot, nous a raconté notre reporter sur place. Objectif, casser son image de candidat des grandes villes, avec un modèle en tête, selon son entourage, Jacques Chirac.
Ouais, alors c'est pas tout à fait la même chose. Quand même, j'ai l'impression que Fred Hermel se mouille la nuque, là.
Ah non, il n'y a pas de cheveux. Non, mais en fait, il n'y a pas des conseillers auprès de ces gens-là. En fait, c'est.
Pourquoi?
Ça sonne faux.
Mais ça sonne qu'il fasse, faux. Il n'allait pas se mettre dans le 7e arrondissement.
Il est tellement parigot, etc., mais qu'il assume. Qu'il assume, parce que là, en plus, le petit village médiéval de l'Aveyron, avec le café-tabac derrière. Enfin, je veux dire, l'image d'Épinal, mais c'est.
C'est le loulou à brocante.
C'est-à-dire.
Il va mettre un béret et chercher une baguette.
C'est-à-dire qu'entre le 7e arrondissement de Paris et le petit village de l'Aveyron, il y a un des trucs intermédiaires.
Oui, bien sûr.
Tu peux aller dans une ville moyenne, par exemple, déjà. Tu vois. Ben, non, mais par exemple, non, non. Mais tu peux aller à Arras, tu peux aller à Tours, tu peux aller, tu vois, pour pas avoir l'air trop parisien. Mais là, c'est, en fait, ça sonne faux. Mais je ne comprends pas tous ces types très bien payés, très intelligents, qui ont fait 10 fois plus d'études que moi, et qu'il y en a aucun qui est capable de dire, ça va se voir, Gabriel, ça va se voir.
Mais est-ce qu'il a un espace, Gabriel Attal, là aujourd'hui, Elis Goldfarb?
Bah, moi, je pense qu'il a tout à fait un espace, mais que, comme a dit Fred, tout va dépendre de sa stratégie. Parce que Gabriel Attal, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on se dit, ah, il est dans l'Aveyron et tout, c'est, mais il fait une tournée en France depuis un an. Si vous observez bien les déplacements de Gabriel Attal, ça fait un an qu'il est en tournée dans plein de petits patelins, plein de petits villages. Donc, il veut se rapprocher des Français. Donc, on comprend qu'il veut se présenter à la présidentielle.
Ah oui, ça, on avait bien compris. Oui, je crois que ça nous avait pas échappé.
Je pense que c'est un candidat qui peut incarner une génération, qui va incarner les enjeux d'IA, d'écologie, de féminisme, de LGBT-phobie, que les autres candidats n'incarnent pas à ce jour. Donc, il a quelque chose à jouer. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? La stratégie actuelle.
Ouais, est-ce que ça joue en mangeant un aligot saucisse dans l'Aveyron? Et ben, est-ce que ça, c'est vraiment Gabriel Attal?
Non, il va devoir bien s'entourer. Ouais. Et là, pour l'instant, bon, bah là, je pense qu'il y a du temps.
Mais les Français, ils aiment l'authentique.
Oui, oui.
La force de Jacques Chirac, alors. Peut-être que c'était de la com aussi, Jacques
non,
Chirac.
Non, pas du tout.
Mais c'est qu'on y croyait.
Il vivait vraiment. C'était un Parisien.
Mais il était de province, attendez. Mais justement. D'accord, mais enfin, excuse-moi, il avait des attaches en Corrèze. Pardon, son grand-père était corrézien.
Il avait su, mais le truc, c'est que il était très parisien. Il avait su s'implanter là-bas, mais il était sincère.
Bah, si
il
Gabriel était
sincère
était
dans la manière de serrer, voilà, de serrer les pinces.
Sa femme était corrézienne. Enfin, il y avait vraiment des
attaches. Attendez, entre son arrivée en Corrèze et sa candidature en 95, il y a 20, 30
mais
ans.
C'est ça. Mais
il veut faire ça en accéléré. Parce qu'il a été plus jeune Premier ministre, il veut être plus jeune candidat, plus jeune président.
Mais c'est juste qu'il a été ministre de l'Agriculture aussi, c'est pas le cas de Gabriel Attal.
C'est juste,
il avait fait ses classes.
C'est juste qu'on veut quelqu'un qui s'assume et que même si c'est un mec du 7e, qu'il dise voilà, je suis un mec du 7e.
Exactement.
La France me tient à cœur. Voilà.
Jacques Legros, vous la voyez de quel œil cette candidature?
Bon, je suis assez d'accord sur le décorum. Hein. moi, j'aime bien le personnage de Gabriel Attal. Je crois que j'ai été un des premiers à le recevoir, une de ses premières télés dans le journal. Il avait peur, je me souviens. Et c'était quelqu'un de fort sympathique. Maintenant, moi, les politiques, je ne les fréquente pas par principe. Donc, mais c'est vrai que Chirac, on évoquait Chirac. Chirac, il mettait la main au cul des vaches, quoi.
Mais bien sûr.
C'était. Je dis pas qu'il était complètement.
Mais il mangeait de la tête de veau.
Sincère.
Ouais, vraiment.
Mais il buvait de la bière comme un trou. Il mangeait de la tête de veau. Il faisait 12 repas au salon de l'agriculture.
Trompé, allez,
c'est pas ça qui fait un bon président.
Mais quel rapport?
Non, mais c'est pas ça qui fait un bon président.
Évidemment.
Mais c'est là où il a fait crédible.
On parle de communication. En termes de communication, il savait faire, même s'il mentait, mais il savait faire.
Voilà. Vous savez que quand il était en campagne, il avait un seau à glace dans la voiture pour aller rafraîchir ses mains, tellement il serrait les mains et tellement il avait les mains irritées, tellement il serrait sincèrement les mains des gens.
Mais Gabriel Attal le fait. Je te dis, ça fait un an qu'il est en tournée en France.
Oui. Oui.
Il était en Alsace la semaine dernière dans des petits villages. Moi qui viens d'Alsace, j'ai vu les patelins où il est allé. Il se donne quand même.
Mais le problème, c'est est-ce que c'est vraiment Gabriel Attal? Est-ce que les petits villages, l'aligot saucisse, est-ce que c'est Gabriel Attal? En vrai, c'est vraiment pas l'image qu'on a de lui.
Si tu prétends vouloir être président, il faut quand même que tu ailles voir ces petits villages,
ouais,
pour rencontrer les Français. Il faut le faire sincèrement.
Mais est-ce que vous, on le sait, vous êtes dans la com, Élise Goldfarb.
Donc,
en tant que communicante,
vous dites,
en tant que communicante, vous dites, est-ce que c'est une bonne entrée en matière ou pas?
Bah, je me tue à le dire, il lui faut des bons communicants.
D'accord. Ouais,
tu déposes ton CV.
En fait, il a un potentiel pour moi qui est énorme parce que la gauche ne le hait pas non plus.
Oui.
Et la droite non plus.
Non,
il n'est pas haï.
Bah, on sait pas
il
tout à fait. Il doit être vraiment centriste parce qu'on sait pas tout à fait s'il est de gauche ou de droite.
Et puis après, je vais te dire, un centriste jeune, on a essayé. Hein.
Ouais, mais il est pas pareil qu'Emmanuel Macron.
Oui, enfin, mais le style, on l'a un peu essayé en 2017.
C'est ça, oui, et la jeunesse, on l'a essayé aussi. Le refus du jour.
Le refus des sénateurs de travailler au-delà du 14 juillet. Gérard Larcher ne veut surtout pas qu'Emmanuel Macron demande au Sénat de siéger au-delà du 14 juillet, alors que justement le gouvernement s'apprête à demander une session extraordinaire du Parlement en juillet pour aller au-delà du 14. Le Sénat refuse. Gérard Larcher estime que les sénateurs ont besoin de temps pour pouvoir aller faire campagne en vue des élections sénatoriales qui auront lieu fin septembre. Pourtant, les dossiers, les lois sont nombreuses à s'empiler pour les sénateurs. Un projet de loi d'urgence agricole, projet de loi de programmation militaire, la loi sur la fin de vie, le logement, l'outre-mer, la Corse. Il y a embouteillage de lois, mais pas question d'aller au-delà du 14 juillet pour Gérard Larcher.
C'est vrai, pendant ce temps-là, les Français attendent. Ça vous choque, Jacques Legros?
Oui, bien sûr. Mais on a aussi les politiques qu'on mérite. Hein. C'est-à-dire, Et puis le mode d'élection des sénateurs n'a rien à voir avec les députés aussi. Hein. Mais ce sont des notables. Et les notables résonnent en notables. Avec des privilèges. Des privilèges de notables. Bon, bah, la France s'est dotée d'une assemblée de notables. Elle l'a.
Ouais, mais c'est fou quand même, parce que je pense à la loi sur la fin de vie. Voilà, il y a plein de Français qui l'attendent. C'est un vrai changement de modèle de société. Et en fait, là, bah, donc, on patiente jusqu'en octobre parce que bon, bah voilà, on n'a pas envie de travailler après le 14 juillet. Mais ça paraît fou. Et en plus, pour des objectifs personnels. Parce que, pardon, la France ne sera pas changée si on change de un ou deux sénateurs. Donc,
Il y a un tiers du Sénat qui est renouvelable en septembre prochain. Gérard Larcher dit, vous savez qui élit les sénateurs, ce sont essentiellement des conseillers municipaux.
Exactement.
Il dit là, il vient d'avoir les municipales, donc beaucoup de conseillers municipaux nouveaux, etc. Il faut avoir le temps d'aller les rencontrer. Quand vous voulez être élu sénateur, je sais pas, dans l'Aisne, eh ben, il y a 30 000 nouveaux conseillers municipaux à rencontrer. Donc, ça fait de la route, ça fait du temps. Et il dit, de toute façon, il dit, de toute façon, après le 14 juillet, on légifère très mal en général.
C'est juste de toute façon pour Saint-Barth.
On fait la sieste au soleil.
Ouais, voilà.
Moi, c'est fou, ça ferait l'air même. Dommage parce que moi j'aime bien le Sénat, c'est-à-dire qu'il est souvent dénigré et il y a eu des projets de discussions de suppression du Sénat. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que c'est un contrepoids à l'Assemblée nationale. Et vu ce qu'on a pu voir à l'Assemblée nationale et la baisse de niveau, je pense que c'était plutôt du côté du Sénat que
c'est pas une critique du Sénat.
C'est-à-dire qu'ils font du mal à l'image d'un Sénat qui est très utile. Moi, je me rappelle de certaines commissions parlementaires du Sénat étaient excellentes sur l'affaire Benalla, par exemple. Philippe Brun. Et on se rendait compte que le Sénat était très utile. Et c'est dommage, par genre de déclaration, de jeter le doute sur l'utilité de cette chambre.
Ça vous choque, Élise Goffard ?
Mais oui, ça me choque. Enfin, en fait, je me dis, mais stop. On va déjà tellement mal. On est déjà tellement en défiance de nos institutions que quand Gérard Larcher, il dit, après le 14 juillet, on légifère mal, c'est juste parce qu'ils ont tous des billets pour aller à Biarritz, en vrai. Parce que moi, quand je vais à Biarritz l'été, je les croise tous, les sénateurs. C'est vraiment une destination de vacances.
Que vous les connaissez, peut-être.
Bah, je vous jure, je les croise dans mes destinations de vacances.
Il fait du paddle.
Et parce que moi, je suis une grosse glandeuse l'été. Parce que je ne gère pas des affaires d'État. Mais ça va, enfin, ils sont très bien payés par nous. Ils sont vieux. Ils sont pas élus par le peuple.
Si.
Indirectement, mais bon.
Ah, bah non, mais c'est élu par le peuple.
Pour moi, c'est moi, je n'aime pas ce mode de. Bon, bref. C'est pas la question. Mais. Arrêtez. Vous pouvez pas nous sortir le truc des vacances alors qu'en fait l'État est à feu et à sang et que l'État administratif du pays est catastrophique.
Mais leur siège est en jeu et ils n'auront plus que ça en tête à partir de.
Et puis la fin de vie, on attend 2029.
On va pas retarder la fin de vie parce qu'ils veulent aller à Saint-Barth.
Ça paraît fou quand même. Le magasin du jour.
L'enseigne Lefties, enseigne espagnole de prêt-à-porter qui vient d'inaugurer hier son tout premier magasin en France dans l'Essonne. Cette marque à bas prix qui appartient en fait au même groupe que Zara, Pull&Bear ou Bershka. Lefties veut se faire en fait une place entre Chine et les magasins Primark quelque part, parce que ce sera par exemple moins de 4 euros pour un t-shirt basique, 8 euros la paire de chaussures, 10 euros le sac, 12 euros la chemise femme, 7 euros le pyjama enfant, 15,99 pour un jean ou encore 13 euros pour une lampe de chevet, car ils font aussi des objets de déco. Bref, et ce sont des magasins en fait avec uniquement des caisses automatiques où tous les coûts sont réduits au maximum.
Fred Hermel, on s'en réjouit ou pas? Vous connaissez cette marque?
Oui, je connais, moi j'aime bien faire.
D'accord. Alors,
j'aime bien, enfin, parce que c'est.
Mais là, c'est la version.
C'est la version low cost. Et automatiquement, qui dit low cost dit pas des produits fabriqués en Europe. Hein, parce que ça va, il y a quand même beaucoup, beaucoup de produits fabriqués. Au Portugal, par exemple, ça va, il y a beaucoup de Portugal.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup de Portugal, voilà. Et celui-là, c'est l'Europe. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas. Mais là, automatiquement, quand on fait les t-shirts à 3 euros, ça ne peut pas être fait à côté, quoi. Donc, voilà. Après, ils sont très connus, je crois, si je me souviens bien, ils sont sur la Grande Via, qui est la grande avenue de Madrid. Ils sont très présents, etc. Mais. Voilà, mais il y aura un public pour ça. Hein. C'est très coloré, en fait, c'est très facile à acheter.
Ce que ça dit du marché, c'est qu'il n'y a plus de magasins de moyenne gamme.
Non.
Ce qui survit dans les boutiques aujourd'hui, c'est soit les Louis Vuitton, etc. Tout ça, il y en a partout et il y a des ouvertures. Et les seules ouvertures de magasins, en effet, c'est Primark, c'est aujourd'hui Lefties. Mais il n'y a plus la place pour tout le prêt-à-porter. Zara, typiquement, est en difficulté à l'inverse parce que ça devient trop cher. Et donc, c'est soit très bas de gamme, soit très haut de gamme, mais il n'y a plus le milieu de gamme quand on veut s'habiller.
Est-ce que vous allez voir dans ces magasins on avait discuté une fois, Jacques Leroux, parce que vous aviez acheté chez Chine pour voir justement ce que ça donnait. D'ailleurs, on ne sait pas ce que sont devenues vos affaires Chine.
Elles vieillissent péniblement.
D'accord. Mais... ok.
Le choix des mots de Jacques est toujours merveilleux.
Ça va se terminer dans un relais, vous savez, ça c'est sûr. Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin ou pas du tout?
Non.
Ok. Non. D'accord.
Non, je fréquente peu les magasins.
D'accord, ok.
Sauf les miens.
Comment ça allez-vous?
Moi, j'ai mes petites marques à moi. Voilà.
Ah oui, bah, écoutez, très bien, ouvrez vos magasins. Jacques Legros, il veut pas donner ses.
Ouais, c'est bon plan. Ouais, c'est comme c'est quoi un champignon, tu sais. Ouais,
il a ses petits créateurs.
Exactement. Élise Goldfarb, on s'en réjouit ou pas?
Bah, c'est une catastrophe. Je comprends même pas que ce soit légal. Vous savez, on a fait quand même un sujet sur est-ce qu'on doit se réjouir qu'il fasse 35 degrés? Donc, on s'est dit, non.
C'est pas de la faute de Lefties,
Bah, si, en fait. C'est de la faute de Lefties. Parce que un t-shirt à 4 euros, comment tu fais pour le faire? Tu le fais faire par un esclave en Chine. Donc, en fait, après, tu le fais venir par des stocks et des containers de la Chine ici. Donc, tu pourris la planète. Et en plus, tu vends pas tes stocks et tu les renvoies au Bangladesh pour qu'ils soient brûlés dans des champs. Donc.
Pas faux, ça.
C'est exactement.
Mais c'est ça,
le serpent
mais les
qui
gens
se
n'ont plus d'argent.
Queue.
Donc
mais non, mais en permanence,
mais
c'est
ils ont le mérite d'ouvrir des magasins.
Mais je m'en fous, en fait. Ils ouvrent des magasins et ils détruisent qui derrière?
Mais ils vous payez des impôts.
Des entrepreneurs français. D'accord? Comme Bash, qui font du moyenne gamme. Comme.
Ils font du moyenne gamme cher. Pardon.
Mais attends, t'es allé chez Zara récemment?
Oui.
Moi, ça fait 6 ans que
je suis allé chez Zara. Je viens d'acheter un jean à 29 euros.
Je suis rentrée l'autre jour.
C'est pas le prix de Bash ou.
Non.
Bah si, je viens d'acheter un jean, donc.
Mais attends, Zara, donc, qui est fabriqué par des esclaves, donc qui prouve que là, ils peuvent fabriquer pour 2 balles.
C'est pas vrai.
Zara est épinglée depuis 6 ans.
Mais arrête.
Ils font fabriquer leurs vêtements par des Ouïghours, les gars, c'est officiel.
Mais arrête, mais en fait.
Épinglée par toutes les ONG.
Mais tu vas chez Zara, ils payent des impôts, il y a des salariés.
Malheureusement, une partie de leur chaîne de production est au Xinjiang, qui sont des esclaves, qui sont stérilisés de force dans des camps de concentration.
Mais d'accord, mais en tout cas, je veux dire que tu vas chez Zara, ton jean, il est à 30 euros, il n'est pas à 200 euros comme tu peux le trouver aujourd'hui dans ce que tu appelles les magasins moyenne gamme. Mais moi, si Bash, c'est magasin moyenne gamme, c'est pas possible.
Mais
le jean, il vaut 190 euros. De quoi on parle, en fait?
Je suis allée chez Zara, j'ai vu une veste à 200 euros.
Mais arrête, je viens aussi d'acheter un. Mais
c'est en fait, hyper cher, Zara.
La semaine dernière, j'ai acheté un jean, 29 euros.
On laisse,
d'accord,
on
et j'ai acheté
faire.
Une
on fait notre liste de courses. Et moi, la semaine dernière,
j'ai acheté une veste en cuir à 69 euros. Donc ne dis pas que, je veux dire,
c'est devenu cher. C'est devenu luxe.
Non, mais ne dis pas que Bash, c'est de la moyenne gamme. C'est pas vrai.
C'est considéré
c'est quasiment
comme
200
de la moyenne gamme.
Qui aujourd'hui peut mettre 200 euros dans un jean? Moi, je suis désolée.
Sur le site de Bash, c'est 250 euros en moyenne.
Il vaut mieux. Voilà. Mais attendez, excusez-moi, les amis, on a déjà eu cette discussion. Il vaut mieux mettre 200 euros dans un jean qui va te durer longtemps et qui n'est pas fait par un esclave que 4 euros dans un jean qui est fait par un esclave, en fait, et qui pourrit la planète.
Mais peut-être, mais en tout cas, il y a des gens aujourd'hui, je suis désolée, ils peuvent pas mettre 250 euros dans un jean. Et je vais te dire,
je
ne mets pas 250 euros dans un jean.
Estelle,
pardon.
Mais en fait, moi, j'en ai marre de ce discours. Je ne me suis pas acheté de vêtements depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? Je préfère m'acheter une fois un jean à 200 balles et après, j'achète plus rien pendant 2 ans.
On n'a pas le même âge. Et moi, il m'empêche que, tu sais, je vais t'expliquer. J'ai 49 ans et il se trouve qu'à 49 ans, les femmes, elles prennent du poids. Tu sais, ça t'arrivera aussi. C'est une période qui n'est pas forcément facile dans la vie des femmes. Et il se trouve que, mes jeans.
Mais tu es très belle, Estelle.
Mes jeans d'il y a 3 ans, je ne rentre plus.
Mais tu es très fraîche.
Voilà. Et il y a plein de femmes qui ont 50 ans qui sont dans le même truc. Et il est hors de question que je me rachète 4 jeans à 250 euros. Tu vois, voilà. Et même si c'est pour faire travailler une petite marque française, pardon, 250 euros pour un jean, on ne peut pas payer ça. C'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal.
Mais quand t'as un Levi's qui dure 50 ans à 100 balles, tu mets pas 250 balles dans une.
Levi's, non, mais attends.
Levi's, c'est 110 euros.
C'est pas très bien,
Levi's. Et ça dure toute la vie.
Si vous voulez, changeons d'exemple. Je préfère un jean Levi's que Inditex.
C'est une autre ambiance.
Des sujets moins tendus, j'en suis sûr.
Alors,
Alors, des sujets moins tendus, oui, j'espère. Ça peut arriver, tu sais, tout peut arriver dans le Moscato
Show.
Oui,
moi, ouais. Je préfère ne pas savoir ce que vous en dites.
Alors, si on parle ménopause un jour, ce ne sera pas avec Vincent. Hein. Je ne préfère pas non plus.
Oui, c'est... oui donc, il y a des précautions à prendre quand même.
Exactement. On peut parler de tout, mais ce n'est pas avec qui quand même.
Oui, voilà, exactement.
Alors, donc, le programme, vous le connaissez, Roland Garros, Coupe de France et Coupe d'Europe de rugby.
Ah oui.
Donc là, avec ça, on a de quoi faire. Alors, première chose, une petite question moyenne très sympa.
Ah,
Roland Garros.
Ouais.
Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Novak Djokovic gagne encore un grand chelem, un de plus, un dernier, son 25e, ou Arthur Fils, dans sa carrière, gagne au moins un grand chelem? Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver?
Oh. Ah, c'est
technique. Hein.
C'est dur parce que Arthur Fils, il est génération Sinner et Alcaraz.
Exactement.
Donc, je vais dire Djoko, mais j'y crois pas. Hein.
Non mais dis-nous, Arthur Fils, quand même, fais-nous rêver.
Mais Arthur Fils, t'as vu la concurrence qu'il y a?
Bon, en tout cas, Arthur Fils, ça sera le gros débat. Que peut-on attendre d'Arthur Fils à Roland-Garros?
Normalement, laissons-le grandir un peu.
J'étais bien foutu le Moscato Show. Il doit s'entraîner à 16h. Et nous, on fait le débat à 16h.
Ah, c'est formidable. Voilà.
Donc, on aura l'info à 16h avec Eric Salio.
Concordance de temps, mais c'est incroyable. Mais c'est fou,
comme si on avait fait exprès.
Mais vous sentez l'actu.
C'est fou.
C'est dingue.
On nous le dit souvent dans le Moscato Show, vous sentez l'actu.
Mais oui, vous sentez les choses avant les jours. Incroyable.
Il y a un petit débat pour faire peur à Fred Hermel.
Allez.
Lens-Nice, l'exploit est-il possible? Le miracle est-il possible pour Nice?
Bah ouais. Moi, je vais mettre une petite pièce sur Nice.
Toujours. Alors, désolé, franchement, sur une finale, sur un match, sur les deux matchs, il savait, tu vois, un aller-retour, sur un match.
Attends, mais on a un peu de mal à y croire quand même.
Alors, moi, je suis très confiant pour ce soir, mais.
Je crois que vous allez encore vous faire avoir, Fred. Mais c'est terrible à dire, mais je crois que vous allez vous faire avoir. Mais nous en reparlerons lundi quand vous serez en larmes, malheureusement. Mais
lundi, elles auront séché les larmes.
Et je vous aime beaucoup, Fred, mais je pense que ça va pas être votre soir, là.
Et puis, j'ai 10 secondes, on a un invité exceptionnel. C'est Valentin Vacherot, 18e joueur mondial, vainqueur de Shanghai.
Exactement.
Qui sera notre invité à 17h30 et qui participera au Kikadi parce que c'est un fan de l'émission.
Voilà, et ça parle tennis. Estelle Midi revient lundi, midi 15h. Oui. Bon week-end à tous.